Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Félix Valla s'est installé depuis 15 ans en Namibie. Fasciné par sa nature, ses animaux et ses immenses étendues sauvages, il y a d'abord travaillé comme guide touristique avant de fonder l'association Tosco, une association qui promouvoit un tourisme responsable. Dans cette deuxième partie de l'émission, Félix nous parle du tourisme en Namibie et de l'association qu'il a créée pour voyager de manière plus éthique en respectant les hommes et leur environnement.
Dans le tourisme, il y a souvent une forme très intrusive, une forme de voyeurisme. Et ici, on découvre le concept des Living Museums, que je trouve assez intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de cette forme de tourisme et ce qu'est un Living Museum ?
Ouais, j'adore. J'adore, c'est un super sujet. Parce que moi, le premier, en arrivant ici, dans ce qu'on appelle Living Museums, sont les musées vivants ou alors les villages de démonstration. On s'est rendu compte qu'effectivement, avec le tourisme, pas forcément de masse, mais le tourisme rapide, le tourisme de consommation plutôt, comme je l'appelle, il fallait visiter un village, prendre des photos, et puis reprendre la route une heure après. Et en fait, on avait un impact assez négatif dans le village. On emmenait forcément des choses dont les gens n'avaient pas forcément besoin, même si forcément ça les dérangeait pas. Que ce soit des bouteilles en plastique, des stylos, des cahiers, mais aussi des sucreries pour lier avec les enfants, des ballons de foot, tout ça. C'est par une bonne intention à la base. Mais en fait, ça dérangeait de manière négative le village en cassant les codes, en se rendant compte que les enfants pouvaient gagner plus d'argent ou plus de nourriture en n'allant pas à l'école, en créant une nouvelle économie qui cassait l'économie traditionnelle. Et ces visites de villages sauvages, cet impact négatif-là, on avait l'impression que c'était authentique, du coup, de faire visiter des vrais villages, mais il y avait un impact négatif, et l'expérience du visiteur n'était pas forcément bonne, mis à part la photo qu'ils allaient ramener. Et les Namibiens ont identifié ce problème, et ont dit, puisque vous êtes intéressés par notre culture, et que nous, on l'aime bien, et on aimerait bien la valoriser, on va créer des villages où les villageois qui y habitent sont actionnaires des retombées financières et du village, de l'activité touristique. Mais c'est un village qui va être monté, fait pour recevoir des touristes. On va prendre le temps de vous expliquer notre culture. Ça ne va pas déranger le rythme du village. Ils vivent au village. Ce sont des gens de cette même culture-là. Ils ne vont pas se changer le soir et le matin. Ils y dorment. Mais ils sont rémunérés par rapport aux visites qui s'y passent. Et ça protège les autres villages des intrusions et tous les effets négatifs que je viens de décrire. Donc moi, quand je suis arrivé avec ma manière de voyager, évidemment, je me dis, mais ça, c'est artificiel, c'est pas le vrai truc. Mais en fait, pour les gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont que quelques heures, voire quelques jours, c'est en fait du gagnant-gagnant, parce que les habitants en vivent correctement, sans impact négatif. Et ils prennent le temps de montrer aux voyageurs leur rythme de vie. Le côté un peu curiosité malsaine ou voyeur de prendre des photos dans leur rythme quotidien est complètement enlevé, vu qu'ils sont là pour ça. Donc ils sont là pour faire les photos qu'ils souhaitaient faire, pour poser, pour montrer comment est-ce qu'ils font, par exemple, pour les Himba, leur pommade d'ocre avec le beurre de vache et l'hématite et la pierre spéciale qu'ils mouent. Et l'expérience du voyageur était meilleure, était plus profonde, avait plus de temps, et l'expérience pour les visiter était aussi plus bénéfique. Donc c'est vrai que quelles que soient les cultures en Namibie, que ce soit les Khoisan ou les Himba, il y a ces villages de démonstration et auxquels j'encourage les gens pour venir. Pour ceux qui veulent d'autres villages, je pense qu'il faut beaucoup plus de temps et sortir d'une relation mercantile. Ça demande de la confiance, ça demande du temps, ça demande de l'échange, et c'est pas fait pour la plupart des touristes.
Et puis il y a souvent le problème linguistique aussi quand tu vas dans ces régions reculées. Le voyageur en quête d'authenticité qui part avec son sac à dos, qui pense en sortant des chemins classiques bien faire, des fois fait des dégâts. Et il vaut mieux les diriger vers ces Living Museums où il y aura réellement un échange parce qu'ils pourront communiquer avec les gens.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on pense que ce sera assez facile avec un sac à dos de se faire héberger et de discuter et tout ça. Mais d'ailleurs, c'est marrant, il y a une émission assez connue en France, il y en a même deux, que ce soit J'irai dormir chez vous ou Rendez-vous en terre inconnue, qui a eu un énorme impact en Namibie. Il y a eu une célébrité française, c'était Muriel Robin, qui est venue en Namibie. qui avait passé quelques jours dans, souvent à côté du village Imba. Et les gens ont vu ça à la télévision, ont pensé que c'était normal du coup de se faire héberger par l'Imba puisqu'ils l'ont vu à la télé. Il y a eu vraiment un énorme boom. Et du coup, on a eu des demandes de gens qui disent ah ben on a vu à la télé qu'on pouvait dormir chez les Imba, ça nous intéresse, ça a l'air super et tout ça. Et donc il a fallu vraiment rééduquer en disant non mais ça se passe pas comme ça, c'est de la télévision, il y a une préparation en amont, les gens sont rémunérés sur place. Est-ce que vous facilement vous accueillez un Africain touriste en France chez vous en pensant que c'est normal qu'il vienne dormir et se nourrir chez vous? Ben non. A priori, non, en tout cas pour la plupart des gens que j'ai rencontrés. Mais parce que c'est l'Afrique, parce que c'est des peuples premiers, racines indigènes, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais ça paraissait naturel. Et la barrière de la langue est aussi un problème. Et dans ces villages vivants, il y a un interprète qui est là pour expliquer et pour valoriser toute la culture. Et c'est vrai que c'est pas du tout dans le mode de fonctionnement de pensée des voyageurs de prendre tout ça en compte. Ça prend un peu de temps. Dans les premières discussions que j'ai avec les gens, ils comprennent pas tout de suite. Comme par exemple la chasse, qui est un sujet hyper émotionnel, hyper compliqué en France. Ici, la chasse est un véritable outil de conservation de l'environnement. Et paradoxalement parlant, on aurait moins d'animaux sauvages s'il n'y avait pas eu de chasse, parce que ça valorise la culture pour les villages vivants et ça valorise la nature. De chasser de temps en temps, de manière réfléchie, de manière durable. Et ça crée une demande. Et pour répondre à cette demande, il faut créer la culture, il faut créer des espaces sauvages, des habitats. Et ça, c'est assez chouette.
Qui sont les touristes qui viennent ici et qu'est-ce qu'ils viennent voir? J'ai souvent l'impression que les backpackers vont plutôt en Asie ou en Amérique du Sud et que la Namibie, c'est un touriste un peu plus élitiste.
Oui. Effectivement, ce qu'on appelle les backpackers, du fait qu'il n'y ait pas de transport en commun, qu'il y ait des très grandes distances, ça veut dire qu'il faut très souvent louer un véhicule. Étant donné l'état des routes et des pistes, seulement à peu près 10% du réseau routier est bitumé. Donc c'est souvent des 4x4 qu'il faut louer. Donc de suite, il y a un budget qui arrive. Comme on vient d'expliquer, c'est pas évident de dormir chez les gens. Il faut souvent aller dans des hébergements, dans des hôtels, dans des lodges. Ces lodges-là qui sont montés en pleine nature, assez loin de tout, il y a un coût pour les monter. Donc forcément, il faut que les hébergements soient chers pour pouvoir fonctionner. Donc c'est vrai que c'est pas un pays facile d'accès financièrement. Même si aujourd'hui on peut louer des 4x4 avec des tentes sur le toit et camper dans différents endroits. Plus accessible, mais le fait de faire 2000 km, ça coûte en essence. Donc, c'est pas adressé à tout le monde, c'est vrai. Sans pour autant parler de luxe dans le sens hôtel 5 étoiles, palace, avec conciergerie, c'est plutôt un luxe de l'espace, un luxe de l'exclusivité, un luxe d'être si près de la nature, en étant pas 100 personnes sur le même site au même endroit, donc aussi une qualité d'immersion. C'est plutôt sur le faire moins et mieux que le faire trop et mal. Après, c'est relatif, ces questions de coût, parce que est-ce qu'il vaut mieux se faire un voyage qualitatif tous les 2 ou 3 ans où vraiment on en ressort avec une expérience un peu grandie, de manière plus profonde, que d'enchaîner des voyages moins chers, moins longs, où finalement on consomme pas mal, et je suis pas certain que ça rapporte plus personnellement que de voyager moins et mieux, encore une fois, que trop et mal. Donc c'est une manière d'appréhender un peu tout ça. J'ai eu des jeunes mariés, j'ai eu des familles avec des enfants. J'adore faire des sortes de classes vertes avec eux, que ce soit allumer un feu, que ce soit identifier des pierres, des oiseaux. On est aussi vachement préformaté sur le safari Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, le Big Five notamment, d'ailleurs qui à la base sont les animaux les plus intéressants à chasser, qui sont devenus maintenant les animaux les plus intéressants à photographier. J'ai toujours essayé de me former en me rappelant cette phrase qu'un guide m'a dit. Le guide parle du Big Five, le bon guide parle du reste. Et c'est vrai qu'en fait, on n'a pas besoin de voir des gros animaux tout de suite pour avoir l'impression de faire un vrai voyage. Si on s'intéresse aux oiseaux, aux reptiles, aux graminées, à plein de petits mammifères, d'insectes, on peut faire un super voyage sans pour autant voir un éléphant. Et c'est ça que j'essaye, moi, durant mes safaris, de transmettre. Et c'est vrai que les enfants sont une super patte à modeler pour ça. Et je suis ravi de voir, quand ça m'est déjà arrivé, d'avoir des jeunes enfants de 8, 10, 12 ans qui, en rentrant chez eux, se sont inscrits à leur club ornithologique de leur quartier, et de voir que ben, y a pas d'un côté la vie en France citadine qu'ils peuvent avoir, et de l'autre côté des voyages avec la nature, ça peut se lier chez eux.
gars d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Félix, on est en train de boire un thé dans ta cuisine et sur la tasse Eco Safari Explore and Preserve. Donc vas-y, parle-nous un petit peu de cette aventure-là.
Oui, donc Eco Safari, du coup, c'est ce qu'on appelle un réceptif touristique. C'est la compagnie de voyage que j'ai montée pour faire justement des voyages qui sont plus en accord avec ce que je pensais. Le terme éco, il est un peu galvaudé aujourd'hui. Il a tellement été mal utilisé, surutilisé, pas forcément à bon escient, que des fois, je trouve que ça joue même contre son intention, parce que tout devient éco sans forcément avoir derrière des vraies certifications, des vraies réflexions. Mais c'est vrai que c'est dur d'en trouver... d'autres qui sont aussi courts et aussi clairs dans leur signification, quelle que soit la langue d'ailleurs. Safari, c'est du swahili qui veut dire voyage, et souvent bon voyage. C'est pas forcément lié à l'Afrique australe ou aux animaux sauvages. C'est pour moi une dénomination pour un voyage nature, le safari. Éco parce que j'y mets certains engagements qui, loin de le rendre forcément positif et tout à fait... neutre voire positif en empreinte carbone, donne déjà un impact plus positif, par exemple dans la compensation carbone terrestre systématique des voyages. On prend des 4x4, ça pollue, donc on plante des arbres indigènes avec une association de permaculture locale, pardon. J'ai développé et on adhère à des recommandations au tourisme responsable sur les choses bien à faire et les choses qui sont moins bien à ne pas faire. Chaque voyage finance directement certains projets de conservation de l'environnement. Et rien que ça, des petits groupes de 6 à 8 personnes aussi pour une meilleure immersion, une meilleure communication, un impact plus positif. Parce qu'aussi, paradoxalement, un bus de 60 personnes pollue moins que 6 4x4 de 10 personnes. Et donc si on choisit l'option 6 4x4 de 10 personnes, autant vraiment maximiser, améliorer l'impact et minimiser l'impact positif et minimiser l'impact négatif. Et on se rend compte qu'en prenant ces valeurs-là, non seulement c'est mieux pour l'environnement et pour les gens qu'on visite, mais l'expérience des voyageurs s'en retrouve aussi affectée. Quand on fait quelque chose de bien, je ne sais pas si c'est le karma ou autre chose, mais d'une manière ou d'une autre, ça nous fait du bien aussi. Et on se retrouve avec une expérience qui est plus enrichie. Et donc, c'est vraiment les safaris que je développe maintenant depuis plus de 7 ans. Et ce slogan, ce motto Explore and Preserve, j'aime bien aussi parce qu'on est encore aujourd'hui dans l'optique où il faut aller toujours plus loin, il faut explorer, il faut faire quelque chose qui n'a encore jamais été fait, aller dans les coins les plus reculés. Mais avec cet état d'esprit-là, il y a un certain impact négatif parce qu'on va inspirer d'autres gens à venir voir des coins qui étaient vierges. Ce qui a un impact négatif, comme on l'a vu, d'aller voir des coins qui sont vierges, autant au niveau des habitants que de la nature. On a l'impression de faire un voyage écolo si on va dans des coins où personne n'est allé, mais en fait, il n'y a rien de pire pour les coins où personne n'est allé que de recevoir des gens. C'est pour ça qu'ils ont été aussi préservés, parce que justement, il n'y a eu personne. Mais je pense que c'est aussi dans la nature de l'homme, toujours aller voir derrière la colline, toujours un peu plus loin, ce qui nous mène des fois à notre perte, mais c'est comme ça qu'on est fait, et je pense qu'il vaut mieux l'embrasser que de le refuser. Je pense pas que la nature de l'homme soit faite pour revenir en arrière, je crois pas trop au mouvement de retourner dans les arbres. Je pense que la technologie peut être un moyen de mieux vivre plus tard aussi, jusqu'à un certain point, mais je suis pas trop rétroactif. En tout cas, je ne pense pas que l'homme soit fait comme ça. Ce serait peut-être bien s'il l'était, mais je pense que c'est quand même le progrès à tout prix, comme disait Voltaire. Et maintenant, à nous de voir quel genre de progrès on veut. Mais voilà, ce sentiment d'exploration, je pense qu'il est important. Pour moi, il a toujours été adolescent. C'est quelque chose qui m'a toujours inspiré, qui m'a toujours conduit à faire des choses, à rencontrer des gens. Et si chacun vivait chez soi et n'explorait plus, on y perdrait peut-être tout autant. Il y a autant de solutions que de cultures. Et si on reste cloîtré chez soi, et je pense qu'on va le voir maintenant avec les confinements qui se passent, ça ne nous rend pas forcément mieux dans nos têtes. Donc voilà, sentiment d'exploration, j'y tenais, malgré les impacts négatifs. Et preserve, voilà, c'est trouver la balance, explorer tout en préservant. Donc explorer, d'accord, mais à condition de faire tout ce qu'on peut pour préserver les endroits qu'on va visiter grâce à ces explorations-là. Donc explorer avec conscience.
Et le lien avec Tosco ?
Et le lien avec Tosco, c'est un dragon à deux têtes. Je pense que l'un se nourrit de l'autre. EcoSafari est un des premiers financeurs de Tosco, et Tosco est un des premiers apporteurs d'idées de safari et d'expérience à EcoSafari. Du coup, ils font sens ensemble, et je pense pas que j'aurais pu faire que l'un ou que l'autre. EcoSafari, ça me permet certes de payer mes factures et d'avoir une famille et de vivre, mais je le voyais pas sans avoir aller encore plus loin dans mon engagement auprès de l'environnement, auprès des Namibiens. J'ai de la gratitude pour la Namibie parce qu'elle m'a apporté ce bien-être là. Je me sens redevable. Et ce sentiment-là, je l'exprime dans mes engagements auprès des Namibiens et auprès du pays. En échange de ce qu'il m'a donné, j'ai envie de donner aussi. Et EcoSafari, je pense, n'était pas suffisant. De toute façon, EcoSafari est arrivé après Tosco. Et les deux, encore une fois, font l'équilibre. Mais bon, je ne m'arrête pas là. J'ai fait aussi pas mal... Par rapport aux serpents, aux reptiles, c'est assez intéressant. Les serpents, les gens en Namibie, alors c'est chouette, on a vraiment beaucoup de reptiles et des chouettes. La cohabitation, ça va pas forcément que avec les éléphants et les lions dans son jardin. En fait, c'est vraiment tous les jours, que ce soit en France avec un essaim d'abeilles qui se met dans ton jardin ou dans une canalisation. La première réaction, ça va être d'appeler quelqu'un pour les enlever. Alors qu'on va crier au meurtre quand un Africain tue un lion pour se défendre chez soi. Par contre, ça ne nous choque pas d'enlever un essaim d'abeilles alors que les abeilles sont en voie de complète extinction quand il y en a chez soi. Et donc, les serpents, aussi dans son jardin, dans des maisons, à Windhoek, on peut en trouver. Alors forcément, il y a un pronostic vital de santé qui peut être là. Donc, bien sûr, les gens tuent les serpents, ce que je comprends très bien. Et moi, ça m'arrive de faire de même. Et on ne peut pas blâmer les gens qui font ça, c'est pour se protéger. Mais la cohabitation, c'est aussi chez soi, même en ville. Et 80% des morsures viennent de gens qui essayent de tuer ou d'attraper des serpents. On vit avec les reptiles, on ne s'en rend pas compte, on ne les voit jamais. C'est juste qu'ils sont plus actifs en saison des pluies, en été. Donc là, ils sortent de leur cachette, que ce soit sous un caillou ou même dans une armoire. J'en ai récupéré dans les armoires de chambre à coucher. Et plutôt que de risquer les morsures ou des gens qui veulent tuer des serpents, on est un petit collectif de 5-6 snake catchers, comme on appelle ça, ou snake handlers, manipulateurs de serpents, où les gens peuvent nous appeler parce que la police n'y va pas, ni les pompiers. Et donc nous, on y va, on attrape le serpent et on en profite pour donner des informations aussi, parce que là aussi, c'est un animal très mal compris, très mal aimé, qui a son rôle dans l'écosystème. L'évolution fait que tout ce qui existe aujourd'hui, il y a très peu de choses inutiles, qui fait de la prédation sur des rongeurs qui peuvent apporter des maladies, des bactéries, qui a son rôle dans l'écosystème donc, et qu'il faut protéger. Et donc on en profite pour discuter avec les gens des serpents, on les permet de les toucher. Et généralement, l'homme, une fois qu'il touche, il découvre une relation à l'animal qui casse pas mal de mythes. On n'est pas du tout dans les shows télévisés de cow-boys avec la sirène sur le capot, à attraper les serpents à la main et à faire le grand show, il est mortel, vous allez mourir et tout ça. Au contraire, on est vachement plus posé dans l'explication. Et ça, pour les gens, c'est une super expérience. Pour nous aussi, le serpent, on va le garder pour prendre des mesures parce que c'est un animal très peu étudié. Le sexe, la taille, la température du sol, de l'air quand il était trouvé, ce qui nous permet d'avoir un peu une base de données sur des statistiques sur les reptiles à Windhoek. Des fois, on en garde certains aussi pour faire ce qu'on appelle des workshops, des présentations dans des écoles, dans des entreprises, dans des bureaux sur les reptiles. Et puis après, on va le relâcher dans la nature. Et là, en ce moment, depuis un mois, il y a un projet hyper intéressant où, grâce à la technologie, on a pu mettre un petit tracker VHF sur un serpent où on va étudier les effets de la relocation sur lui et ses déplacements. On ne sait pas si un serpent est territorial. On ne sait pas s'il vit mieux à 1800 mètres d'altitude qu'à 1100 mètres. On ne sait pas s'il se déplace de 5 km tous les 4 jours. Et du coup, je pense qu'on peut mieux protéger que ce qu'on connaît. Et du coup, cette connaissance, on l'a en faisant ce type d'action-là. Certaines personnes vont dire aussi laissez-les tranquilles, les animaux, ils sont très bien sans nous, on n'a pas besoin d'eux et tout ça. Très bien, certes, mais en ne les connaissant pas, on va avoir un impact des fois négatif sur eux. Si on va construire une maison, une autoroute, si on ne connaît pas la population de serpents sur place, on peut tout à fait détruire une mini-population justement par manque de connaissances. Donc je pense que ça va quand même dans le bon sens. Et en plus, ça revient à l'adrénaline utile. Moi, quand je fais trop de bureau, je suis pas bien, et c'est une bonne excuse pour partir et vibrer un petit peu à l'extérieur.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
TOSCO, Tourism Supporting Conservation, donc c'est le tourisme au service de la préservation de l'environnement. Donc on fonctionne avec une adhésion annuelle de la part d'agences de voyage, de loueurs de voitures comme ASCO, de privés aussi, de voyageurs qui ont vu ce qui se passe sur place et ont envie d'aller un peu plus loin dans leur engagement et ont envie de préserver ce qu'ils ont utilisé. On travaille sur différents programmes, que ce soit le soutien à la recherche, que ce soit le soutien aux gens qui cohabitent avec la faune sauvage, aussi la sensibilisation du public et aussi le voyage propre avec la compensation carbone. Avec l'effondrement du tourisme suite à la crise du Covid, beaucoup de rangers, par exemple, étaient financés par des revenus issus du tourisme. Maintenant qu'il n'y a plus de tourisme, ces gens-là n'ont pas de travail, n'ont plus de salaire. Ils continuent à faire leur travail de manière bénévole, ce qui n'est pas très, très, très durable. Donc on fait des levées de fonds, des plateformes de crowdfunding, notamment sur Litchi en France. Mais aussi localement pour que les rangers puissent continuer à faire leur travail, d'autant plus important car la première possibilité pour du braconnage, c'est l'absence des vallées qui sont abandonnées, et le tourisme avait une utilité dans ce sens, c'est-à-dire qu'ils fréquentaient des vallées où du coup les braconniers ne pouvaient aller. Sans tourisme, ces vallées sont laissées sans surveillance, donc le travail des rangers est d'autant plus important. L'impact économique du manque de tourisme crée de la pauvreté, donc le besoin de braconner s'éveille à ce moment-là. L'Afrique du Sud, par exemple, a une politique extrêmement punitive sur le braconnage. Le Botswana aussi, où ils tirent à vue sur des potentiels braconniers. Un problème, Alexandre, que tu connais très bien, que tu as expérimenté avec des connaissances à toi. Nous, on ne croit pas trop là-dedans parce qu'on se rend compte qu'il y a deux courbes qui augmentent. C'est le nombre d'animaux braconnés et le nombre de braconniers arrêtés. Donc quand ces deux courbes se suivent et montent en même temps, on trouve qu'il n'y a pas trop de sens. On est beaucoup plus dans la gestion communautaire où les rangers bénéficient, ont des salaires grâce à la protection, grâce au fait qu'il y ait des rhinocéros dans leur vallée. Ils en bénéficient aussi grâce au tourisme quand il y en a. Donc on peut aider TOSCO en visitant en tant qu'étranger, par exemple, cette plateforme de crowdfunding, mais aussi en nous écrivant directement. Ça peut être du matériel, ça peut être des rations, ça peut être des reportages télévisuels ou radio qui mettent en avant leur travail pour les soutenir afin que le braconnage ne revienne pas en Namibie. En 1980, il y a eu 4 années de sécheresse où 90% du bétail domestique est mort. Et forcément, la pauvreté a fait qu'il y a eu une recrudescence du braconnage. Et cette recrudescence du braconnage a été contrôlée et mise à mal grâce à cette gestion communautaire-là. Plutôt que de taper sur les gens, sur un braconnier ou finalement qui fait que vouloir nourrir sa famille, c'est son animal, beaucoup plus que le nôtre d'ailleurs. On a assez peu le droit de lui dire quoi faire avec son animal. Dire, bah, en fait, tu pourrais en vivre de cet animal-là. On peut mettre en place des systèmes qui permettent d'en vivre de manière plus durable que de le tuer tout de suite. Et donc, en Namibie, ça fonctionne assez bien. C'est pour ça qu'on est un des seuls pays au monde à avoir autant d'animaux hors parc national.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
J'ai la chance d'avoir deux filles, Lise et Mathilde, qui ont 6 ans et 9 ans. Et de ce côté pâte à modeler dont je parlais plus tôt, qui ne sont pas encore trop formatées. Et avec qui c'est encore possible de changer un petit peu, d'écarter un peu la fourchette ou de changer un peu ce formatage. Et ma fille Lise, l'aînée, qui aime bien faire des trucs, qui aime bien faire des trucs qui ne plaisent pas à tout le monde, on va dire. Elle a aussi cet intérêt pour les reptiles, à tel point que des fois elle me demande, papa, mais est-ce que c'est bien si j'aime les serpents ? Parce que justement, il y a ce jugement un peu de la société que déjà elle ressent à 9 ans, mais elle a encore la fraîcheur et la naïveté de s'y intéresser quand même. Et mes enfants, c'est vrai que je les prends un maximum dehors parce que je pense que la vraie vie, elle est quand même dehors. C'est là qu'on se sent vivant, En plus, c'est gratuit, donc ça c'est bien. Et j'insiste vraiment voilà, sur les enfants et sur mes enfants que je leur donne le maximum de clés sans les forcer, parce que je pense que c'est pas une bonne idée de les forcer, de leur dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Après, il peut y avoir un rejet par rapport à ça, mais de leur laisser vraiment la porte ouverte à n'importe quelle expérience avec le dehors, avec la faune sauvage, que ce soit avec les scarabées, que ce soit avec les serpents, que ce soit avec les éléphants. D'ailleurs, les éléphants, elle en a vu tellement tôt quand elle était petite que ça lui semble assez normal. Et elle prend beaucoup plus son pied à prendre le métro à Paris qu'à aller voir un éléphant. Un éléphant, au bout de 5-10 minutes, elle fait « Oui, papa, c'est bon, c'est un éléphant, j'en ai déjà vu souvent. Est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît ?» Alors qu'elle me fait faire 3-4 allers-retours de ligne à Paris pour changer de wagon, pour ouvrir les portes. Et quand, je crois que c'est la ligne 2 qui sort à un moment donné dans le 18e. Alors ça, elle a découvert ça à 8 ans. Là, elle y passe beaucoup plus de temps qu'à regarder un éléphant. Mais c'est ça qui est, ouais, que je trouve assez cool et intéressant.
Dans ta vie ici à Windhoek, est-ce que tu as encore le temps de sortir, d'aller dans la nature? Est-ce que tu te balades encore? Est-ce que tu emmènes tes enfants, ta famille au contact du sauvage et de la nature? Et peut-être aussi partager avec nous un de tes highlights ici en Namibie.
Alors oui, parce que à Windhoek, nous on vit un petit peu en périphérie, je peux mettre ce terme-là, donc on vit un peu contre le bush, contre la brousse, donc on voit régulièrement des babouins, il y avait une famille de facochères qui était là il n'y a pas longtemps, la nuit on a croisé des porcs épics, des oiseaux, donc c'est vrai que de chez moi on est amené à en voir souvent, quand je récupère les serpents je les ramène chez moi pour les quelques jours dans des seaux, donc aussi avec mes enfants on les regarde, c'est vrai que quand ils sont nés je me suis mis beaucoup de pression pour les emmener très tôt, très vite dehors. Et alors qu'ils n'étaient pas forcément nécessaires à cet âge-là. Alors que maintenant, ça le serait plus. Mais comme je l'ai déjà fait, j'ai un peu plus la flemme maintenant. Et puis ma femme aussi travaille beaucoup. Et c'est vrai qu'elle préfère des fois se reposer le week-end que de ressortir. Mais j'habite près d'un barrage. Donc on va voir l'eau, les oiseaux d'eau, les oiseaux limicoles. Donc on a accès quand même dans le quotidien à la nature. Personnellement, de par mon travail, soit quand j'accompagne des équipes de tournage animalier, soit avec des voyageurs, bien sûr, moi j'ai accès aussi. Et puis, c'est vrai que mon engagement auprès de la préservation de l'environnement, des acteurs de la préservation de l'environnement, m'emmène sur le terrain avec eux, à les côtoyer et à participer à leurs recherches, à leurs études. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce monsieur des lions, ce Philippe Stander, qui était pris dans un conflit avec certains lions dans un endroit. Il y a un deuxième conflit qui a éclaté, il ne pouvait pas y être. Il m'a demandé d'y aller à sa place. Deux lions s'étaient rapprochés d'un village et qui avaient consommé un âne à 10 km d'un village. Et la prochaine étape aurait pu, elle, qui se rapproche encore plus du village. Donc il fallait garder un œil sur elle et empêcher qu'elle se rapproche trop du village pour pas être tuée. Et donc j'ai passé 24 heures à les observer avec un ranger local dans la voiture, y compris la nuit. Et au bout de 24 heures, le docteur Stander est arrivé. Il a évalué la situation et la première solution à faire, c'était la translocation. C'était d'anesthésier ces lions et de les remettre au cœur de leur territoire qui n'était pas habité pour éviter qu'ils continuent de filer ce mauvais coton vers l'homme et vers le bétail. Et donc il a posé la question, on était 3-4 véhicules. Là il y a deux lions, je peux en prendre qu'une dans ma voiture, qui prend l'autre? Donc c'est des questions qu'on pose pas souvent à des gens. Et donc moi, très très féru de ce genre d'expérience et d'adrénaline, j'ai bien entendu me supporter volontaire d'ailleurs de toute façon, mais j'étais le seul, il n'y en avait pas d'autres. Et donc il a anesthésié les deux lions, il a pris l'adulte qui pesait plus de 150 kilos, qui s'appelle 69. Et moi, j'ai pris sa nièce, qui s'appelle Charlie, qui pesait déjà 90 kilos, sur la banquette arrière de ma voiture, pour la relocaliser dans son territoire. Et s'en est suivi une nuit de folie avec cette lionne dans ma voiture, puisque malheureusement, sur des très mauvaises pistes, ça l'a stimulée, donc elle se réveillait assez régulièrement. Donc il fallait que toutes les 5 minutes je m'arrête pour prendre son pouls et calculer sa respiration, et dès que c'était pas assez calme, il fallait redonner une injection d'anesthésie. C'était la nuit, il n'y avait pas de réseau téléphonique, elle a dû se réveiller, ça a duré 7-8 heures la translocation, elle a dû se réveiller une dizaine de fois dans la voiture, donc d'abord les oreilles qui bougent, ensuite certains sons émis de sa gorge. Et j'avais un talkie-walkie avec ce docteur pour garder la liaison, et quand elle se réveillait, pour m'arrêter, qu'il puisse remettre une injection. Et après, il ne faut pas trop le faire parce qu'après, c'est trop dangereux pour sa santé. Et le talkie-walkie ne fonctionnait plus. Il n'y avait plus de piles à un moment donné, il a se réveiller. Et donc, c'était de bonnes sensations. Je guettais sa tête dans mon rétroviseur, les oreilles qui bougeaient. J'étais accompagné d'un écrivain qui s'appelle Colin Niel, qui a écrit un livre qui s'appelle Entre fauves, d'ailleurs. Je me permets d'en parler. Qui est un roman, un thriller, qui parle un petit peu de ça. Et ça a été, c'est pour ce genre d'expérience que je suis en Namibie. C'est vraiment ça qui me fait me sentir vivant. Et c'est ça qui me rend bien, où en France, je ne suis pas arrivé à trouver des expériences similaires. Je dis pas qu'il y en a pas. Bon, certes pas avec les lions. Mais, je pense que ce bien-être, ces genres d'expériences qui m'apportent ce bien-être là où je me sens vivant, en faisant quelque chose d'utile. Et voilà, ça m'a plu énormément. Après, il y en a d'autres, mais voilà, pour cette anecdote.
Merci Félix.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.